Je me réjouis d'avoir pu me joindre à vous pour ce culte ce matin. Vous savez que cette salle, cette belle salle, sert aussi tous les 2 mois à peu près pour réunir une pastorale, une réunion de pasteurs. 25 pasteurs du secteur alésien, à peine élargis, se réunissent, en tout cas sont convoqués, ils ne sont pas tous là chaque fois. Et donc nous allons nous réunir ce jeudi prochain, donc jeudi de 9h à 11h30, nous serons là pour 2h30 de partage, de prière, de réflexion. Voilà, Nathalie sera là, je pense. Et normalement, voilà, je crois que Clément sera absente, mais Samuel sera là. Écoutez, notre culte se poursuit avec la lecture de l'Écriture, encore une fois, et je vous invite à écouter la lecture que je vais faire dans la première lettre de Samuel, au chapitre 16. Il s'agit de l'onction de David. Premier livre de Samuel, chapitre 16, je vais lire des versets 4 à 13. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Bethléem, c'est là où Jésus est né, mais Jésus est né parce qu'il y avait déjà quelque chose qui s'était passé à Bethléem. L'onction de David, fils d'Isaïe. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dirent « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Il répondit « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe, pas Ésaïe le prophète, mais Isaïe le père de David, et ses fils, et les invita au sacrifice. Ça veut dire qu'on ne s'approchait pas de Dieu et on ne demandait pas quelque chose à Dieu comme ça. Il fallait un rite, il fallait une démarche sacrificielle. Ben parce que Dieu est Dieu et que nous sommes ses créatures. Et en plus, nous sommes des créatures qui ont été contaminées par le péché. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant, donc dans la maison d'Isaïe, lorsqu'ils entrèrent, Samuel se dit en voyant Éliab, peut-être le fils aîné d'Isaïe, certainement celui qui est oint de l'Éternel est ici devant lui. L'Éternel dit à Samuel, « Ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme considère ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Isaïe appela Aminadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer Shamma. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Comment il le savait? Le Seigneur le lui montrait dans son cœur. L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et Isaïe répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Il était blond, avec de beaux yeux, une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. Et l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Je lirai maintenant dans l'Évangile de Matthieu la première béatitude. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est le verset que je commenterai dans quelques instants. Et puis je veux lire encore au chapitre 11, le verset 11. Voilà, une des paroles étonnantes de Jésus, il y en a beaucoup. Je vous le dis en vérité, dit Jésus, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Voilà une parole vraiment étonnante. Et il faut que le Seigneur nous aide pour que nous comprenions ce que cela signifie. Alors, dans ces lectures, nous avons entendu plusieurs fois le mot « roi ». Le mot « roi » dans la Bible n'est pas un gros mot. Quand Jésus est né, les mages venus d'Orient sont arrivés à Jérusalem et ont dit « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Voilà, cette parole a été prise au sérieux par Hérode, puisqu'Hérode s'est enquis auprès des docteurs de la loi pour savoir où devait naître le roi des Juifs. Ils ont dit à Bethléem. Donc, vous voyez, ils étaient quand même bien renseignés. Et les mages sont donc allés à Bethléem. Entre parenthèses, Hérode a ordonné que l'on fît passer par le fil de l'épée tous les garçons de moins de 3 ans. C'est dans la Bible aussi, n'est-ce pas ? Pour essayer d'éliminer celui qui peut-être un jour, comme roi, remplacerait Hérode. Voilà. L'Évangile est-il l'annonce d'une république ou d'une démocratie ? L'Évangile est l'annonce d'un royaume. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Quand nous entendons le mot « pauvre », et le mot « pauvre » est dans la première béatitude, hein, « heureux les pauvres en esprit », on essaiera de comprendre ce que ça veut dire. Nous pensons spontanément aux migrants, aux SDF, aux chômeurs, mais ce n'est pas précisément de cela que Jésus parle dans ce passage. Dans la première béatitude, Jésus parle d'une pauvreté de cœur, qui est d'ailleurs en lien avec la réalité du royaume de Dieu. Heureux ceux qui sont pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Il y a donc un lien entre les deux. Dans un premier temps maintenant, je voudrais que nous essayions de comprendre justement qui sont ceux que Jésus désigne par cette expression « les pauvres en esprit ». On a tout dit peut-être à ce sujet. On a pensé à ceux qui étaient simples d'esprit, à ceux qui étaient un peu dérangés, à ceux qui ne comprenaient rien à ce qu'on leur disait. Ou bien on a pensé aux SDF, aux chômeurs et aux migrants. Voilà. Cette expression n'est pas spontanément accessible à notre intelligence naturelle. Qui sont ces pauvres en esprit dont Jésus dit « ceux-là sont heureux et le royaume des cieux leur appartient ». C'est un peu comme une parole scellée, une parole cachetée. Voilà. Il faut enlever un voile pour qu'on comprenne ce que cela veut dire, sinon on ne comprend pas. Puissions-nous vraiment comprendre encore mieux, je dirais, ce matin, si c'est possible. Alors, je pense qu'il y a deux moyens pour nous aider à comprendre cette parole. Le premier de ces moyens, c'est de chercher dans le récit biblique quels sont ceux qui font partie de cette catégorie. Et il y en a évidemment beaucoup, à commencer par Jésus, qui, de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour nous, pour que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Jésus qui est né dans une mangeoire, Jésus qui sera baptisé parmi des pécheurs, Jésus qui rentre dans Jérusalem sur un ânon, Jésus qui sera crucifié entre deux brigands. Mais il y a beaucoup d'autres personnages de la Bible qui s'apparentent à cette catégorie des pauvres en esprit. Alors, j'en ai retenu quelques-uns, pas au hasard mais presque. Je pense à Rahab, la prostituée, une prostituée dans une ville païenne, qui figurera dans la généalogie de Jésus quand même. Hein. Elle est une ascendante d'Isaïe, le père de David. Rahab, prostituée, qui n'est pas versée dans les Écritures, bien sûr, mais qui dit aux espions du peuple hébreu qui venaient dans Jéricho, « Nous savons que Dieu est avec vous. » Comment le savait-elle ? Vous voyez, Dieu révèle à qui il veut les desseins sacrés de son cœur. Rahab qui dira « Souvenez-vous de moi quand vous rentrerez dans la ville. » Voilà. Et Rahab est donc dans la généalogie de Jésus. Je pensais aussi à Naaman le Syrien. Ça rappelle l'enseignement pour les enfants. Hein. Mais ce n'est pas une histoire pour les enfants quand même. Naaman était un riche dignitaire, hein, mais il était lépreux. Et dans sa maison, il y avait une petite servante du peuple d'Israël, une esclave, qui un jour dit, « Dans mon pays, il y a un homme de Dieu qui pourrait guérir mon Seigneur de la lèpre. » Voilà. Et après, je pense, bien des hésitations, Naaman part avec des bagages chargés d'or et de cadeaux pour se rendre dans la maison d'Élisée. Et il se dit, quand Élisée va me voir, il va sortir, il va me dire, « Naaman, sois le bienvenu. » Mais Élisée envoie son serviteur. Serviteur. Alors Naaman ne comprend pas, il fait presque demi-tour. Voilà. Mais le serviteur de Naaman dit, « On n'a pas fait tout ce voyage pour rien, quand même. » Écoutons ce que le serviteur dit. Que dit le serviteur ?« Va te tremper cette fois dans le Jourdain. » Cette fois, Naaman pique une colère. Il dit, « Mais dans mon pays, il y a des fleuves 10 fois plus importants que le Jourdain. » Et le serviteur de Naaman dit, « Mais quand même, si on t'avait demandé une chose impossible, mais là, peut-être il faut le faire simplement. » Et Naaman s'humilie et rentre dans le Jourdain et cette fois s'immerge dans ce Jourdain. C'est comme une sorte de baptême, même si l'expression n'apparaît pas. Et quand Naaman ressort, Naaman est purifié de sa lèpre. On pourrait citer la veuve de Sarepta, on pourrait citer beaucoup de personnages. J'ai pensé aussi à l'aveugle Bartimée. Je vais en dire un mot encore tout à l'heure. Je pense bien sûr au publicain qui dit dans sa prière « Sois apaisé envers moi qui suis pécheur ». Je pense au centenier de Luc 7 qui dit le centenier qui a un serviteur malade. Vous savez, normalement, un centenier, quand il a un serviteur malade, il le jette et il en prend un autre, un tout neuf. Mais lui, il a pitié de son serviteur. Voilà. En plus, il aime la nation d'Israël, ce qui est un peu étonnant pour un centenier. Voilà, il a même aidé à construire une synagogue. Et voilà qu'il dit à Jésus, « Je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. » Comme c'est étonnant cette parole, vous voyez. J'espère qu'en écoutant cela, la dimension du royaume de Dieu se dessine doucement devant vos yeux. Voilà. Mais dis une parole et mon serviteur sera guéri. Et ce qui apparaît dans ce récit extraordinaire, c'est qu'il y a deux caractères qui se révèlent en même temps. L'humilité, c'est sûr, et la foi. Non pas n'importe quelle humilité, l'humilité de celui qui se sait petit devant Dieu, qui sait qu'il ne mérite rien. Et la foi qui permet de découvrir ce qui est caché aux autres. Voilà, dis une parole et mon serviteur sera guéri. Les disciples de Jésus n'ont pas encore compris qui était Jésus. Et le centenier romain le comprend déjà, qui dit, moi qui suis soumis à un supérieur, je dis à mon serviteur, fais ceci et il le fait. Et donc toi qui viens de Dieu, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Et Jésus admire la foi du centenier. Et à la place du mot « foi », on pourrait mettre le mot « intelligence », c'est-à-dire la compréhension des choses cachées que Dieu révèle à ceux qui ont un cœur humble. Et donc, retenons cela, l'humilité et la foi, non pas comme des dispositions naturelles, mais comme un fruit de la grâce, comme un fruit de l'action de Dieu dans le cœur. L'humilité et la foi vont ensemble. En gros, il n'y a pas de véritable humilité sans la foi qui s'incline devant Dieu, et il n'y a pas de foi sans humilité. Il n'y a pas de foi sans humilité. En d'autres termes, autour du repas du Seigneur, il n'y a pas d'orgueilleux. Il n'y a que des personnes qui ont fléchi le genou et qui ont tout ouvert leur cœur à leur Rédempteur, se voyant à la place de Jésus sur une croix, portant le châtiment qu'il mérite. Voilà. Alors, retenons cela. Il y a un deuxième moyen pour comprendre qui sont les pauvres en esprit, c'est de considérer les 8 autres béatitudes qui, avec des mots différents, décrivent la même attitude, la même disposition de cœur. Alors, je ne vais pas lire les 9 béatitudes, mais je retiens les affligés. Voilà. Heureux les affligés, ils seront consolés. Ils ne sont pas affligés parce qu'il pleut ou parce qu'ils ont mal aux dents. Ils sont affligés parce qu'on ne sert pas Dieu comme Dieu devrait être servi. Ils sont affligés à cause du mal qui se fait autour d'eux, à cause de l'iniquité, comme Lot dont il est dit, ce juste affligeait son cœur jour et nuit à cause du mal qui se faisait autour de lui. Heureux les affligés. Heureux les débonnaires. C'est quoi un débonnaire? C'est quelqu'un qui ne revendique pas. C'est quelqu'un qui ne réclame rien. Donc, ça peut être un trait de caractère, n'est-ce pas? Mais là, dans les Béatitudes, hein, c'est heureux les débonnaires parce qu'ils ont tout reçu de Dieu. Ils n'ont besoin de rien d'autre. Ils disent toujours merci. Ils sont toujours contents. Ils ne revendiquent pas parce que tout leur est donné par grâce, hein, et ils sont les plus riches quelque part, même s'ils n'ont pas grand-chose. On pense au psaume 23, hein, « Je ne manquerai de rien ». Je ne manquerai de rien. Même celui qui ne sait pas ce qu'il va manger à midi, dans la foi, il peut dire « Je ne manquerai de rien parce que je me confie en Dieu qui est fidèle ». Voilà les débonnaires. Ceux qui ont faim et soif de la justice. Dans la Bible, la justice, c'est tout simplement la volonté juste de Dieu. Donc, c'est ceux qui ont faim et soif de la volonté de Dieu. Ce sont ceux qui, à chaque respiration de leur cœur, disent « Seigneur, que ta volonté soit faite ». Et non la mienne. Voilà. Ceux-là seront rassasiés. Ceux qui sont persécutés pour la justice, eh bien, ce sont ceux qui souffrent parce qu'ils ont choisi de plaire à Dieu plutôt qu'aux autres. Tout simplement. Ça ne nous arrive pas si souvent. Ça peut nous arriver. Ça pourra nous arriver un jour. Ceux qui préfèrent souffrir pour être fidèles que de trahir en cherchant la facilité ou le confort. Pour terminer ce premier point, je dirais, les pauvres en esprit sont ceux dont l'orgueil a été brisé. Normalement, ça nous concerne tous, n'est-ce pas? Et qui ont été rendus obéissants dans la foi. Voilà. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans cette définition. Hein. Les pauvres en esprit sont ceux dont l'orgueil a été brisé et qui ont été rendus obéissants dans la foi. C'est la position des justes dont parlent les psaumes, les yeux, le regard de l'Éternel est sur les justes, et il les délivre en tout temps. Ceux-là sont doux et humbles de cœur, car ils ont mis leur confiance en Dieu, et cela se voit dans toute leur conduite. Maintenant, je voudrais dans un deuxième temps réfléchir sur l'expression « le royaume des cieux est à eux ». Parce que ce n'est pas facile de comprendre qui sont les pauvres en esprit. J'espère que nous l'avons cerné un petit peu à l'instant. Mais ce n'est pas facile non plus de comprendre le royaume des cieux est à eux. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que cela veut dire? Je crains que souvent nous entendions cela comme de la poésie. Le royaume des cieux est à eux, ça sonne bien, n'est-ce pas? Mais je ne crois pas que Jésus soit venu sur la terre pour faire de la poésie. Vraiment. Quand durant son procès, le gouverneur interroge Jésus « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répond « Tu l'as dit. » Et donc, vous voyez, c'est-à-dire que c'est une réalité. Pourtant, Jésus était flagellé, peut-être les mains liées, semblable à quelqu'un dont on détourne le visage, duquel on détourne le visage pour reprendre les paroles d'Isaïe. Mais Jésus dit, voilà, « Je suis le roi des Juifs. » Ce n'est pas moi qui le dis, c'est toi qui le dis. Et tu le dis parce que Dieu te l'a montré. Voilà. Est-ce que cela se voyait que Jésus était roi? Pour dire la réponse est non. Sauf pour ceux à qui Dieu le révélait. C'est comme ça le royaume de Dieu, frères et sœurs. Il est caché, sauf pour ceux à qui Dieu le révèle. Et c'est la différence entre un croyant et un incroyant. Hein. Ils mangent peut-être le même repas à midi, ils dorment peut-être dans la même rue, mais l'un voit quelque chose de caché et l'autre l'ignore complètement. Donc c'est une grande différence entre eux. En fait, ils ne se comprennent pas. Ils n'ont pas les mêmes lunettes. Hein. Ils n'ont pas le même trésor. Ils n'ont pas la même espérance. Ils ne font pas les mêmes choix. Ils ne parlent pas la même langue. Alors, est-ce qu'en disant ça, je dis nous sommes des extraterrestres? Non, non, on est quand même des citoyens de la Terre. Hein? Mais qui comprend ce qui fait notre joie? Qui comprend la source dans laquelle nous puisons nos forces pour rafraîchir notre âme? Qui comprend ce qui nous fait lever le matin et marcher comme nous marchons en tant que disciples de Jésus-Christ? Voilà, tout à l'heure, j'ai mentionné Bartimée. « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Comment le savait-il, Bartimée? Comment le savait-il, si ce n'est pas révélation? Et le brigand sur la croix, le brigand sur la croix qui dit à un autre crucifié, « Souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne. Comment le savait-il? Dans quel livre il l'a lu? Quel enseignant lui a dit que c'était cela? C'est par révélation. Et dans ces cas, et dans tous les cas finalement, on voit que l'humilité précède la gloire. Hein? Dieu révèle son dessein aux plus petits. Vous vous rappelez cette parole de Jésus bouleversante. « Je te loue, Seigneur du ciel et de la terre, hein, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Et dans le Nouveau Testament, le mot « enfant » est synonyme de « disciple ». Un enfant, c'est un disciple. Un disciple, c'est un enfant. Voilà. Qui va devenir un adulte, bien sûr, solide, capable de transmettre à d'autres. Mais il doit passer par la case « enfant ». L'attitude de l'enfant est inscrite dans son cœur. Jésus lave les pieds de ses disciples comme un serviteur. Mais juste après, il dit, vous m'appelez Seigneur et Maître, et vous faites bien parce que je le suis. Et donc on voit que les deux positions sont compatibles, n'est-ce pas? Et dans un même temps. On pourrait dire d'abord l'humilité et après la gloire. Et en un sens, c'est vrai. D'abord l'humilité, après la gloire. Mais là, c'est en même temps. Jésus est en même temps le serviteur qui lave les pieds de ses disciples et le Seigneur et le Maître. De même que l'enfant Jésus, quand il naît, il est en même temps un nourrisson et le roi des Juifs. Et le crucifié sur la croix est en même temps un crucifié et le roi des Juifs. Celui qui introduit le royaume de Dieu. Donc les deux positions sont compatibles, cela nous concerne directement. En un sens, la position du disciple, serviteur et en position royale, est celle de l'homme avant la chute, de l'homme avant le péché. C'est une restauration quelque part. Avant le péché, l'homme devait garder et cultiver le jardin. C'est une position de serviteur. Garder et cultiver, c'est une position de serviteur avant la chute. Mais Dieu dit à l'homme de dominer la terre et de l'assujettir. C'est une position royale. Assujettir, c'est faire des autres des sujets. Donc avant la chute, avant que le péché vienne tout pervertir, n'est-ce pas ? L'homme était déjà en position de serviteur et en position royale de la part de Dieu sur la terre. C'était son mandat, c'était sa vocation, c'était son identité, c'était son humilité, il n'était qu'une créature, mais c'était sa gloire aussi, au milieu de la création. Et en un sens, cela est restauré par notre union avec Jésus, qui était lui-même serviteur et roi. Dans le désert après son baptême, Jésus est affaibli et humilié, certainement. Il a faim, mais il résiste au diable et le fait fuir. Et après cela, des anges viennent pour le servir. Jésus enseigne ses disciples assis sur une pierre. Jésus s'assit et les enseigna. C'est écrit juste au début des Béatitudes. Mais il parle avec autorité et non pas comme les scribes. Devant le tombeau de Lazare, Jésus pleure. Mais après, il dit, « Lazare, sort !» Jésus est arrêté comme un malfaiteur. Mais quand les soldats lui disent, « Qui est Jésus ?» Il dit, « C'est moi !» Les soldats tombent à la renverse, par terre. Puis Jésus dit à Pierre, « J'aurais pu commander à 12 légions d'anges de venir me délivrer. » Et vous voyez donc, au même moment, Jésus à la posture d'un serviteur humilié et la posture royale à cause de sa filiation, à cause de sa fidélité. Enfin, sur le chemin, avec les disciples d'Emmaüs, Jésus marche sur un chemin, il n'est pas reconnu par ses disciples, mais peu après, il dira « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre ». Et donc, encore une fois, dans un même mouvement, dans un même moment, Jésus a à la fois la posture d'humilité et la posture royale. Cela est bien dit dans ce texte que Isabelle a rappelé ce matin. Hein, étant dans la condition de Dieu, Jésus a choisi de s'humilier, prenant notre condition d'homme, obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour terminer, je voudrais juste commenter quelques instants cette expression qui résume ce que je voulais partager ce matin. L'humilité précède la gloire. Voilà. Deux fois, cette parole se retrouve dans le livre des Proverbes. L'humilité précède la gloire. Je pense qu'on pourrait graver ça sur le mur de nos maisons, n'est-ce pas? Tellement c'est, ça dit beaucoup de choses. Ça nous parle de Jésus, ça nous parle de nous-mêmes, ça nous parle de notre espérance, ça nous parle de la dignité qui nous a été accordée, n'est-ce pas? L'humilité précède la gloire, précède dans le temps, c'est-à-dire aujourd'hui l'humilité, demain la gloire, mais en même temps dans un même mouvement. Aujourd'hui, nous avons part à l'humilité et à la gloire. C'est important de nous rappeler cela. Il y a des églises où on insiste beaucoup sur l'humilité. C'est un petit peu le cas dans notre union d'église, on va dire. Hein. On insiste beaucoup sur l'humilité et on a raison. D'autres églises insistent beaucoup sur la gloire. On est déjà dans le ciel, on est déjà dans la victoire, on est déjà dans les nuées, on est déjà dans le règne. Ce n'est pas faux non plus, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut inscrire ces deux projets dans un même mouvement pour que sur nos fronts soient inscrits ces deux mots, humilité et gloire? C'était le cas pour Jésus. Il avait une double tunique en quelque sorte. Jésus avait une tunique de serviteur et il avait un habit de roi. Et c'est ce qui faisait la différence avec les autres enseignants ou avec les autres maîtres qui pouvaient exister au même moment. Oui. Quand Paul et Silas chantent les louanges de Dieu dans leur cachot, c'est à la fois l'humilité et la gloire. Pourquoi l'humilité? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux et il donne sa grâce aux humbles. Avant la chute, il n'était pas nécessaire d'être humble, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que l'orgueil conduit sur une voie de perdition. Voilà. Imaginez la parole de Jésus, « Vous êtes la lumière du monde ». Imaginez quelqu'un qui entend cette parole sans posture d'humilité. Vous voyez le piège, hein? Vous voyez l'impasse, hein? Vous voyez l'arrogance, la supériorité, la vanité qui peut s'emparer. Je suis la lumière du monde. Ah bon? Il faut que d'abord que ton cœur soit circoncis, mon ami. Il faut que d'abord que ton âme devienne transparente. Il faut que tu aies été lavé par le sang de Jésus. Il faut que tu aies été abaissé et que le Seigneur t'ait relevé. Alors sa lumière va briller au travers de toi. C'est autre chose, n'est-ce pas? Voilà, c'est la dimension du royaume de Dieu. Un jour, oui, un jour, mais dès maintenant aussi. Dès maintenant. L'humilité permet aux chrétiens de participer à la royauté de Christ sans que cela tourne à sa perte. Et donc l'humilité est aussi désirable que la gloire, pourrions-nous dire. Voilà. Heureux dès maintenant ceux qui pleurent, ils seront consolés. Ils seront consolés plus tard, mais ils sont heureux dès maintenant. Et ainsi en est-il de la gloire, vous voyez. La gloire nous est réservée, mais elle nous est déjà accordée. Aujourd'hui dans l'humilité, un jour, je pense sans humilité parce qu'elle sera plus nécessaire, hein, mais aujourd'hui avec l'humilité, mais déjà la gloire. Donc, je vous invite simplement à retenir que l'humilité aura toujours sa place dans le cœur et dans la vie d'un chrétien. Voilà, que je sois un homme ou une femme, que je sois un enfant ou une personne âgée, que je sois riche ou pauvre, instruit ou pas, en bonne santé ou pas, quelles que soient les circonstances, qui que je sois, l'humilité est de mise. La posture d'humilité, l'identité d'une personne humble, d'un serviteur et d'une servante. Le mari est le serviteur de son épouse, l'épouse est la servante de son mari. Voilà. Et pour ceux qui ne sont pas mariés, ils sont aussi des serviteurs, bien entendu. Et le pasteur est un serviteur. Nous sommes tous des serviteurs. Ne craignons pas cette posture-là. Nous la désirons. Elle est désirable. Jésus nous a réconciliés avec cette identité de serviteur, de servante et de personnes qui sont au service des autres. Mais, voilà, il y a une dimension de gloire qui nous revient aussi légitimement. Et quand l'ennemi nous dit « tu ne vaux rien du tout », quand les philosophes, les penseurs d'aujourd'hui nous disent « voilà, animaux et hommes, pas de différence hein, ». Pas de différence. Quelqu'un dit même avec des bactéries, tout ça c'est le vivant, c'est la biodiversité, il n'y a pas de dignité pour l'homme, au contraire. Hein, voilà. Eh bien nous disons, en tant qu'homme, nous avons un honneur qui n'appartient qu'aux hommes et aux femmes créées à l'image de Dieu. Et en tant que chrétien, nous avons un honneur ajouté de faire partie du corps de Christ et d'avoir une espérance incorruptible. Et donc c'est aussi important, c'est une thérapie aussi nécessaire dans la situation qui est la nôtre, de rappeler l'humilité et de rappeler la gloire. Pas d'humilité sans gloire, pas de gloire sans humilité. Voilà la double tunique qui est la nôtre, voilà les prémices du royaume de Dieu, voilà notre posture de chrétien à la suite de Jésus-Christ, notre Sauveur. L'humble tunique du serviteur, mais aussi l'habit royal que Jésus nous a acquis pour que nous marchions à sa suite et que nous soyons un jour là où il est maintenant, où il nous a préparé une place. Je vais prier. Seigneur, tu as été sur la terre l'incarnation de ton message. Et tous n'ont pas entendu et tous n'ont pas vu, mais certains ont compris qui tu étais de manière étonnante. Et par ta grâce, aujourd'hui encore, des hommes et des femmes ont eu les yeux déciliés, le voile s'est écarté et tu as fait paraître cette réalité incroyable de ton royaume, à la fois promis, est déjà présent. Seigneur, rappelle-nous le prix de la tunique des serviteurs et des servantes et rappelle-nous aussi la valeur inestimable de la tunique royale. Merci pour Jésus-Christ qui a été le premier d'un grand nombre. Merci pour ton esprit qui nous rappelle cette double vérité qui la rend réel dans nos cœurs et puis sur nos visages, dans nos paroles et dans nos gestes. Seigneur, nos regards sont sur toi. Que ta grâce nous précède, nous accompagne et nous garde fidèles tous les jours de notre vie, dans la foi, au nom de Jésus. Amen.